VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
11h en temps universel, bonjour à tous. L'épisode d'Ebola en Guinée a pris fin, a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS souligne que la Guinée entre maintenant dans une phase dite de surveillance soutenue de 90 jours. La Guinée a passé 42 jours sans nouveau cas depuis le second test négatif sur le dernier patient, soit deux fois la durée maximale d'incubation. Au Mali, le camp de la MINUSMA à Boulngoundié, dans la ville de Gao, tenu par le contingent chinois, a été l'objet d'une attaque à la voiture piégée dans la nuit de mardi à mercredi. Les populations prises de peur se sont donc précipitées chez elles. Le bilan pourrait s'alourdir, dit-on. On fait état de plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels. On rejoint tout de suite à Gao Boubacar Touré, notre correspondant.
La forte détonation qui a été entendue s'est produite au niveau du camp de la MINUSMA 6 à Boulngoundié, en plein centre-ville, un camp tenu par le contingent chinois. C'est un véhicule piégé qui a voulu forcer le passage qui a explosé à la rentrée du camp, suivi de coups de feu qui seraient venus de l'extérieur. Des coups de feu qui ont duré plusieurs longues minutes, obligeant les populations prises de panique à se précipiter dans leurs maisons. Du coup, les rues sont devenues désertes. Le bilan qui pourrait s'alourdir au cours de la journée fait état de plusieurs blessés évacués à l'hôpital et des dégâts matériels considérables. Des hélicoptères ont passé des heures à tourner au-dessus de la ville. Pour l'instant, les auteurs et le mobile de ces attaques ne sont pas encore connus. Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a mis en place un groupe d'experts chargé de la rédaction d'une nouvelle constitution, parmi lesquels figure un de ses proches favorable à la levée du verrou de la limitation des mandats présidentiels. Ce groupe de 10 experts, qui a un mois pour faire des propositions à M. Ouattara, sera dirigé par le professeur de droit Boniface Obu-Ouraga, qui avait déjà travaillé sur l'actuelle constitution. Au Congo-Brazzaville, les opposants réclament un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD, l'une des principales plateformes d'opposition au président congolais Denis Sassou Nguesso, estime que la tenue d'un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale est l'unique issue de sortie de crise au Congo. Même demande du côté du Conseil national des républicains du pasteur Ntoumi. On écoute Sosten Samba du CNR.
Le révérend pasteur Ntoumi demande qu'il y ait cessation des hostilités, qu'il y ait cessez-le-feu et qu'il faut instaurer un dialogue entre M. Denis Sassou Nguesso et le CNR du révérend pasteur Ntoumi. Et que ce dialogue-là doit être supervisé par l'opinion internationale, donc l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Et aujourd'hui, par rapport à la situation qui prévoit dans le pool, le révérend pasteur Ntoumi demande le dialogue pour épargner la population civile de ces massacres-là. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, M. Nicolas, que la population du pool est en proie au bombardement. C'est une population civile et désarmée qui ne demande rien contre que la paix.
Sosten Samba, joint à Montréal par Nicolas Pinault. De l'autre côté du fleuve en RDC, la crise politique perdue, le contentieux porte sur l'organisation de la prochaine présidentielle et sur celui qui doit continuer à diriger le pays après l'expiration du mandat du président Joseph Kabila. Un arrêt de la Cour constitutionnelle autorise le président à rester en place jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président élu. Eric Manirakiza a joint à Lubumbashi le secrétaire exécutif de la Convention des Congolais pour la transition et de la nouvelle société civile congolaise, François Kandé.
Le problème de l'unité de la RDC est un problème qui est déjà posé avant. L'État congolais n'a pas su, du moins jusqu'à aujourd'hui, mettre fin à l'insécurité à l'est du Congo. Les Congolais aujourd'hui veulent vivre en paix, veulent vivre ensemble. Les Congolais veulent protéger ce patrimoine qui est la RDC.
Le Congo connaît des problèmes internes politiques. Vous parlez de risque d'insécurité. Est-ce que c'est une situation qui risque d'encourager la naissance de nouvelles rébellions?
Nous avons la solution pour résoudre le problème politique que nous traversons aujourd'hui. C'est que les uns et les autres acceptent de respecter la loi fondamentale qui est la Constitution, qui détermine les prérogatives de chacun, qui détermine aujourd'hui la constitution de la RDC comment le pouvoir va être géré, comment aussi il peut être perdu.
Vous parlez d'un cadre de référence. On sait qu'il n'y aura pas d'élection à la date prévue. Le président Kabila a été maintenu par une décision de la Cour constitutionnelle qui est décriée par l'opposition. N'est-ce pas une source de déstabilisation, d'insécurité?
Oui, pas seulement au Congo, mais dans n'importe quel pays. La fonction, comme je vous ai dit, c'est la loi fondamentale et le conseil n'est pas violé. Donc, lorsqu'elle est violée, cela crée une certaine insécurité. Le mandat a une durée. Comme le mandat du président des États-Unis, ça durait de 4 ans, le mandat a une certaine durée. Mais si pendant ces temps, il y a impossibilité d'organiser les élections, alors nous nous retrouvons malheureusement au pied du mur.
François Kandé de la Convention des Congolais pour la Transition et de la Nouvelle Société Civile Congolaise joint donc à Lubumbashi. La présidente de la Commission de l'Union africaine s'est félicitée de la condamnation de l'ex-président tchadien Hissène Habré pour Nkosazana Dlamini Zuma. Le verdict démontre que l'Union africaine ne tolère pas l'impunité et les violations des droits de l'homme. Le jugement des chambres africaines extraordinaires, un mécanisme de l'Union africaine, est significatif en ce qu'il renforce le principe de l'Union africaine, de solution africaine aux problèmes africains, a ajouté l'organisation panafricaine dans un communiqué. La condamnation de l'ex-président tchadien Hissène Habré par un tribunal spécial africain à Dakar a été saluée comme l'application du principe que l'Afrique juge l'Afrique, dont la généralisation est désormais exigée par des militants des droits de l'homme et des juristes sous la forme d'une justice africaine permanente.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On va au Kenya. Nairobi a réaffirmé mardi sa volonté de fermer d'ici à novembre le camp des réfugiés de Dadaab qui accueille essentiellement des Somaliens fuyant leur pays en guerre. Mélisse Hegel.
Avec plus de 350 000 personnes, ce camp est le plus grand du monde. Il est situé près de la frontière avec la Somalie, déchirée par une guerre civile depuis plus de 20 ans. Depuis un mois, le gouvernement kényan répète qu'il veut fermer le camp de réfugiés somaliens pour des raisons de sécurité. Nairobi affirme, sans donner de preuves, que c'est à Dadaab qu'ont été planifiées les attaques des islamistes Shebab contre le centre commercial Westgate en 2013 et l'université de Garissa en 2015. Les ONG et l'ONU qualifient cette décision de très préoccupante. Des militants des droits de l'homme ont signalé que le rapatriement des réfugiés constituerait une violation du droit international. Selon Ben Lawrence, auteur du livre City of Thorns, qui raconte la vie de réfugiés à Dadaab, le Kenya fait de la surenchère pour obtenir plus d'argent pour l'accueil des réfugiés, construire des écoles et des routes dans le nord-est du pays et renforcer la sécurité autour des camps. La dernière fois que le Kenya a menacé de fermer Dadaab, en avril 2015, les États-Unis avaient promis 45 millions de dollars.
Au Mozambique, une guérilla fait rage dans le centre du pays, plus de 20 ans après la fin de la guerre civile. Les affrontements entre armées et opposition dans la région de Gorongosa terrorisent la population qui fuit donc la zone. La police accuse la RENAMO, principal parti d'opposition entré en insurrection, d'avoir mené 18 attaques ces dernières semaines sur la route principale du pays, faisant 7 morts et plus de 30 blessés dans la capitale mozambicaine. Des tractations ont repris la semaine dernière pour entamer un nouveau processus de paix. En Syrie, les forces kurdes appuyées par la coalition internationale ont ouvert un nouveau front contre le groupe djihadiste État islamique dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie. Après avoir lancé le 24 mai une offensive contre l'État islamique dans la province de Raqqa, les forces démocratiques syriennes, les FDS, semblent ainsi étendre à l'ouest, dans la région d'Alep, leur combat contre le groupe extrémiste qui occupe de vastes régions de Syrie. Les combattants arabes et kurdes des FDS ont lancé mardi l'assaut pour reprendre à l'État islamique la ville de Manbij, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Et puis au moins 20 000 enfants sont bloqués dans Fallujah et risquent le recrutement forcé par les djihadistes qui contrôlent cette ville d'Irak, assiégée par les forces armées, a indiqué aujourd'hui le Fonds de l'ONU pour l'enfance, l'UNICEF. Après avoir pendant des mois resserré les taux autour de Fallujah, les forces irakiennes ont lancé le 23 mai une offensive pour reprendre la ville, située à 50 km à l'ouest de Bagdad, au groupe État islamique. Lundi, elles sont entrées dans la cité où elles font face à une forte résistance des djihadistes. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.